les médias francophones publics.
Radio France,
RTBF,
Radio-Télévision Suisse,
Radio-Canada.
Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission culturelle internationale et francophone. Aujourd'hui, nous avons invité des rêveurs pour vous faire rêver. Nous irons sous la neige de Montréal et nous irons aussi dans le rayon des livres de poche pour deux nouveautés économes. Et si on rêvait un peu en ce mois de février entre les sports d'hiver pour les chanceux et l'attente du printemps pour les impatients? Deux rêveurs sont avec nous, deux conteurs merveilleux. Jean-Claude Grimbert réenchante la vie avec un conte éblouissant sur les drames de la guerre. Mathias Malzieu, capitaine du groupe Dionysos, revient quant à lui en librairie avec un doux roman musical qui revisite le mythe de la sirène. Bonjour Mathias Malzieu.
Bonjour.
Bonjour Jean-Claude Grimbert.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Très bien.
Ça a l'air.
Oui, à peu près bien.
Qu'est-ce que vous faites de vos rêves à part les écrire?
Moi, j'essaie de les transformer en réalité. Par exemple, comme rêve, j'avais traversé le cercle polaire en skateboard. Ben, je l'ai fait.
C'est vrai? En
oui.
Skateboard?
Oui.
Mais non.
Si.
Mais non.
Si, si.
Mais c'est pas possible.
Si, 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 si,
ah,
c'est possible.
Jean-Claude Grimbert.
Non, je fais pas ça du tout.
Qu'est-ce que vous en faites de vos rêves?
Je les ai longtemps notés parce que j'étais longtemps en analyse. Donc, je notais mes rêves pour pas les oublier. Mais moi, c'est plutôt des rêves qui parlent du passé et pas de ce que je devrais faire demain.
Voilà. D'accord.
Donc, c'est des rêves assez sinistres.
L'émission ne sera pas sinistre avec Jean-Claude Grimbert et Mathias Malzieu cette semaine. Dans un instant, on vous emmène à Montréal, parler de ces femmes qui ont marqué l'histoire du Québec avec Anaïs Barbeau-Lavalette. Un entretien sous la neige, dans un froid glacial, au bord du fleuve Saint-Laurent. Et puis, dans l'actualité des livres de poche, un Français et une Belge à ne pas manquer. Philippe Delerme et Odile Doutremont publient deux livres à lire absolument pour, là encore, donner du positif à sa vie.
La librairie francophone, Emmanuel Quérade.
Et les libraires sont en multiplex avec nous comme chaque fois. Bonjour Laura Sanchez.
Mais bonjour Emmanuel.
Vous représentez la Suisse dans la librairie du Boulevard à Genève. Vous êtes une rêveuse aussi, je crois.
Absolument.
Voilà. En France, on retrouve Thomas Auxerre, qui lui non plus n'est pas toujours très clair.
Bonjour Emmanuel.
Je cherchais une phrase, mais je n'ai pas trouvé. Il est imprévisible en fait, Thomas. Hein, un peu comme moi.
Ah oui, je suis un peu imprévisible. Un peu rêveur aussi.
Pour la Belgique, c'est Déborah Damblon de la librairie La Licorne à Bruxelles. Bonjour Déborah.
Bonjour Emmanuel.
Comment allez-vous?
Bah, licorne et rêve, ça va ensemble.
Ça va ensemble. Et Thomas, il est dans la librairie Lamandia plutôt, hein, je ne l'ai pas dit.
Ouais, c'est pas grave.
On fait dans le désordre aujourd'hui. Jérémy Laniel représente le Canada. Bonjour Jérémy.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire, vous, à Rosemère?
Oui, exact.
Alors, vous avez été très dur la semaine dernière. J'espère que vous serez plus doux cette semaine.
Qui sait, Emmanuel? Qui sait?
Alors, pour commencer justement cette émission, Jérémy, une histoire. Après Haïti la semaine dernière, nous partons cette fois dans le froid de Montréal avec Anaïs Barbeau-Lavalette, une écrivaine célèbre au Québec, Jérémy.
Absolument, une écrivaine qui a eu un succès monstre avec La femme qui fuit, ouais, et qui est vraiment devenue une des grandes écrivaines québécoises.
Anaïs Barbeau-Lavalette vous raconte l'histoire des femmes pionnières qui sont arrivées un jour par le fleuve Saint-Laurent et qui ont marqué l'histoire du Canada. Nous sommes allés sur place. Voici un entretien reportage. Bonjour Anaïs Barbeau-Lavalette.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va bien.
Alors nous sommes dans la neige et sous la neige sur la place de l'Horloge à Montréal, au bord du fleuve Saint-Laurent qui est juste là. Et puis on a un monticule de neige autour de nous. Vous publiez Nos héroïnes aux éditions Marchand de Feuilles, un livre pour la jeunesse mais qui s'adresse aussi à tout le monde, et vous racontez ces femmes d'exception. Alors on vous a demandé de nous raconter l'histoire d'une de ces femmes exceptionnelles dans un lieu exceptionnel. Et nous voici ici.
Alors on est presque dans le fleuve, il faut le dire là, on a presque les deux pieds dedans. J'ai choisi de parler des filles du roi. Alors c'est pas une femme, c'est un collectif de femmes. Puis les filles du roi, c'est nos ancêtres, en fait. C'est les premières, donc, à avoir traversé la mer pour venir ici en Nouvelle-France. Puis je trouvais ça beau, en fait, profondément émouvant d'être près du fleuve parce que... Donc, les premières sont arrivées en 1663. Elles avaient fait 111 jours de trajet. Elles étaient 33. Et puis, elles dormaient, bon, empilées les unes sur les autres, en haut des vaches, des pigeons, des cochons. Puis, elles arrivent ici, donc, à à Québec d'abord, puis pour certaines, elles vont faire à la barque, donc pendant de 5 à 6 jours de barque sur ce fleuve-là, pour arriver ici donc en pleine forêt, sur des terres à inventer, à déboiser, à creuser, à cultiver pour prendre Marie, puis pour finalement fonder le début de la Nouvelle-France.
Alors c'est le roi Louis XIV qui, lorsque la Nouvelle-France vient d'être découverte, décide d'y envoyer des femmes pour que les hommes s'y établissent.
Mais pour que la colonie prenne racine.
Eh oui, c'est ça, oui, carrément.
Parce que sans femmes, pas d'enfants, pas de suite du monde. Voilà. Donc, moi, j'avais entendu que c'était des femmes de mauvaise famille, des prostituées, des femmes qui avaient fait des mauvais coups, qui étaient en prison, qu'on sortait, qu'on envoyait loin pour pas que ça se reproduise. Puis en fait, en faisant les recherches, j'ai découvert que non, c'était des femmes, donc oui, de classe modeste, qui n'avaient pas nécessairement d'avenir parce qu'elles n'avaient pas de dot à offrir en mariage. Et donc, un peu, leur avenir se trouvait de l'autre côté de l'océan. Puis avec beaucoup de courage, donc des femmes âgées de 14 à 40 ans qui traversaient la mer comme ça pour venir inventer quelque chose de plus grand ou de mieux ici. Mais imagine arriver là, ici, il n'y a rien quand elles débarquent.
Oui.
Donc, elles restent encore anonymes. Je les présente sous un collectif, mais j'ai envie de leur rendre hommage parce que j'ai appris, moi, tout récemment, que j'étais directement descendante d'une de ces femmes-là qui aurait marié
ah
un
bon?
Barbeau. Ouais. Et donc,
parce que vous êtes issue d'une grande famille, hein. On l'avait appris dans La femme qui fuit, un livre qui a eu un succès considérable chez Marchand de Feuilles. Vous racontiez l'histoire de votre famille et vous avez comme ça une famille très élargie et qui fait partie un peu de l'histoire du Québec.
Oui, ben en fait, comme beaucoup de monde, hein, finalement, y a, quand on commence à s'intéresser à notre mémoire, à nos racines, il y a toujours des récits émouvants qui ressortent. Puis, je sais pas, je trouve qu'au Québec, puis partout dans le monde, il s'est passé quelque chose de très puissant dernièrement, après le mouvement MeToo, ou mouvement Moi aussi. On a réveillé les voix des femmes, on a réveillé la fierté des femmes, la colère des femmes, puis je sentais que c'était à point pour réveiller notre mémoire collective.
Mille filles répondent à l'invitation du roi. Elle triple comme ça la population. On va s'avancer un peu, Anaïs Barbeau-Lavalette, parce qu'il fait très très froid. On a un pont comme ça dans la brume, là, juste en face de nous. Et puis des parasols bleus et blancs qui sont couverts de neige. On voit encore un petit peu de bleu, mais voilà, ils sont à moitié gelés à mon avis. Et puis cette place de l'horloge est incroyable. Cette horloge, elle a une signification. Ici, il y a des plaques, il y a plein d'inscriptions et plein d'explications.
Ben oui, moi je le découvre avec vous. Pour moi, c'est l'horloge où est-ce que je vais venir me réfugier. Ce fleuve-là me fait beaucoup de bien, en fait. Il y a quelque chose de particulier, hein. Le fleuve, c'est notre frontière à nous. C'est ce qui nous sépare des Américains. C'est propre au Québec, en fait. C'est là où aboutissent les grands lacs du Canada. Donc, il y a quelque chose de profondément relié à l'identité québécoise. Ce fleuve-là est complètement, fait partie de notre ADN, en fait.
Alors, il y a une autre femme, on va terminer avec elle, avant de se réfugier dans un endroit plus chaud parce qu'on va geler sur place. C'est Jeanne Mance, Anaïs Barbeau-Lavalette, cofondatrice de Montréal. Sa famille meurt en France et elle décide comme ça de partir. Alors, elle traverse l'Atlantique, elle se retrouve dans cette région-là, et elle fonde le premier hôpital ici.
Mmh. Elle fonde le premier hôpital. Donc Jeanne, elle, pour éclairer le premier hôpital, ramassait les lucioles, les feux follets qu'on appelle ici, pour les mettre dans des bocaux pour pouvoir faire la lumière qui allait éclairer donc le premier hôpital de Montréal. Puis elle est aujourd'hui reconnue comme la cofondatrice de notre ville.
Bon, on va retrouver le centre de Montréal, car on est sur une presqu'île ici quasiment. Hein. C'est une avancée comme ça sur le fleuve Saint-Laurent, une avancée qui nous permet, comme vous le disiez tout à l'heure, d'être quasiment dans le fleuve. On va sortir de cette neige très épaisse, hein. Il y a au moins 20 cm par là. Venez, on va se retrouver sur la place de l'Horloge avec un grand jardin là qui est face à nous, une grande allée, des arbres, des bancs et un endroit évidemment à privilégier l'été. Vous venez pour vous réfugier ici, c'est un endroit qui vous permet de réfléchir, de travailler, de vous ressourcer.
Ben, malheureusement, il n'y a pas tant d'endroits où il y a un accès direct au fleuve, alors que le fleuve borde de la ville partout. Mais
ben
ici,
oui.
Ici, il y a vraiment un accès piéton, en fait. Donc, les gens viennent lire, se poser, s'embrasser. C'est vraiment un beau lieu d'errance, puis de rencontre avec le fleuve. D'ailleurs, il y a eu dernièrement un beluga qui a quitté les eaux salées pour venir s'installer ici, dans ce bras d'eau douce. Puis, il est devenu un peu la mascotte vivante du coin. puis en même temps, on est en, autour, il y a les gratte-ciel, il y a la vie grouillante, les bureaux, les gens avec des cravates, puis les belugas.
Voilà, c'est ça. Si on traverse un bras du fleuve, il y a le Vieux Montréal, où on trouve plein d'activités et plein de restaurants touristiques. Merci Anaïs Barbeau-Lavalette.
Merci, ça fait plaisir.
Merci beaucoup. Nos héroïnes est paru aux éditions Marchand de Feuilles en collaboration avec Mathilde 5 Mars, qui a réalisé les illustrations, et c'est un livre pour la jeunesse, mais pas seulement, tout le monde peut le lire. Merci Anaïs.
Ça fait plaisir.
Merci.
Et vous pouvez retrouver les photos de cet entretien-reportage à Montréal sur Facebook et sur mon compte Instagram. C'est nouveau, abonnez-vous à Instagram Emmanuel Queyrade et vous verrez, on est tellement couverts qu'on nous reconnaît à peine. Mathias Malzieux du groupe Dionysos est avec nous pour son nouveau conte, Une sirène à Paris. Et on va commencer par la BO du roman et le tout nouveau titre de Dionysos, qui est la BO de ce livre justement. Ça vient de sortir, Mathias.
Oui, ça sort du four là.
Ça sort du four. Voici donc un long extrait en avant-première pour la première fois à la radio du nouveau titre de Dionysos, Une sirène à Paris.
Mon cher Gaspard, joli Gaspard, je suis une sirène, sirène, sirène. Ramène-moi avant qu'il ne soit trop tard pour toi, trop tard pour moi.
Oh là, oh, oh là, oh là, oh là, oh là, oh.
C'est pas dans mon appartelier que je risque de me noyer. Je vais commencer par te soigner et te faire du poisson pané.
Il n'est pas né le poisson qui me résistera. Même les grands requins blancs.
Oula, oula, oula,
oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula,
le nouveau titre de Dionysos en avant-première pour la librairie francophone sur France Inter, la RTBF, la RTS et Radio-Canada. C'est la BO du roman de Mathias Malzieux qui est avec nous. Alors Mathias, vous publiez donc Une sirène à Paris, paru chez Alma Michel, comme pour La mécanique du cœur. Ce livre s'accompagne d'un disque et d'un film, paraît-il.
Oui. Alors c'est un tout petit peu différent parce que là je me suis mis à la place du personnage principal. C'est-à-dire que La mécanique du cœur, j'avais fait vraiment des chansons scènes et des chansons personnages, alors que là c'est les chansons du personnage.
Ouais, d'accord.
C'est donc du coup dans le disque, il y aura des chansons qui commencent avant l'histoire du livre. Et effectivement, j'ai fait les trois en même temps, je travaillais sur le roman, je faisais les chansons du personnage, ouais. Et en même temps, j'ai écrit le script.
Et sacré boulot, hein.
C'était un sacré boulot, ouais. Mais c'était vraiment magique parce que j'étais complètement comme quand on part dans un pays pour apprendre une langue, mm-hmm. Et que on discute plus jamais avec des Français. Et ben là, vraiment, j'apprenais le langage de cette histoire et de ces personnages en étant tout le temps en immersion avec eux.
Alors, vous revisitez le mythe de la sirène. Votre personnage Gaspard trouve une sirène au bord de la Seine, alors qu'un déluge s'abat sur Paris. On est en 2016 et le chant des sirènes est encore très dangereux.
Oui, bah, en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était cette zone entre le réel et l'imaginaire. C'est-à-dire que il y a vraiment une crue, quand même, centennale, en 2016. Et moi, je trouvais que Paris avait une dimension un peu irréelle, un peu comme quand il a neigé. Et qu'on sait que ça va être problématique sur la logistique, mais qu'il y a une poésie le matin avant que tout le monde se lève, qui est assez extraordinaire dans le son, etc. Et là, il y avait ce côté avec les ponts qui semblaient avoir rétréci. Et puis surtout, quand la scène a fini par baisser, on a retrouvé plein d'objets un peu comme surgis du passé, des vieilles télévisions, des vieux vélos rouillés. Et puis évidemment, pas mal de poissons morts dans un silure énorme.
Ouais, ouais.
Et là, je me suis dit, ah, ça serait marrant qu'on trouve
une sirène.
Qu'on trouve une sirène inanimée.
Vous êtes un rêveur, hein, Mathias, c'est clair.
Bah, c'est même, oui, c'est un engagement poétique, politique presque.
Les sirènes n'existent pas, vous
savez.
Non, mais c'est pas grave. La métaphore, elle est importante. C'est-à-dire oui. que si c'était juste faire une histoire de sirène, ce serait anecdotique. Oui. Mais par contre, c'est raconter par la dangerosité et par l'attirance quelque chose d'universel et qu'on vit dans ses émotions sur l'amour avec la métaphore de la sirène. C'est ça l'important.
La métaphore de la sirène, le symbole du rejet de l'autre aussi, parce que la mission de Gaspard, c'est donc de sauver cette sirène blessée dont personne ne veut, qui va faire une victime avec son chant. Elle a développé
plusieurs victimes,
surtout une qui nous fait un peu de peine.
Oui.
On va pas tout raconter, mais elle a développé son chant pour se défendre des humains.
Exactement.
À force d'être rejetée, d'être pourchassée, elle a trouvé
même.
L'arme fatale.
Exactement. En fait, c'est quand elle a perdu sa mère, qu'elle a vu sa mère tuée par des hommes, qu'elle a développé ce chant. Avant, elle chantait uniquement pour faire le bien, et en fait, elle a changé d'intention. Et en fait, c'est pas son chant qui est vénéneux en soi, c'est à partir du moment où elle décide que son chant devient tueur qu'il le devient. Par peur, il l'est tout le temps, comme un animal sauvage finalement qu'on chasserait.
Il y a trois libraires qui ont lu votre roman, Mathias Malzieu, la France, la Suisse et la Belgique. On commence par qui ?
C'est celui qui veut, je sais pas.
Le premier qui crie. Allez.
Il est en face de moi. Donc,
Thomas Hausser, pour la France.
Eh ben alors écoutez Emmanuel, moi pour être honnête au début en lisant le quatrième de couverture, je me suis dit, oula, ça a l'air un peu fantaisiste, il y a une sirène en plein Paris, bref, c'est pas pour moi. Alors en fait je me suis bien trompé, car j'ai beaucoup aimé votre roman, votre écriture a un petit côté feu d'artifice poétique et puis aussi très mélodique. Les sons, les mots un peu dingo ou surgissant là où on les attend pas forcément, ça fonctionne. Du coup, en ajoutant une petite histoire de doux rêveur, des personnages hauts en couleur et un peu d'amour, moi vous m'avez carrément embarqué avec vous. Enfin, j'ai adoré.
Merci beaucoup.
Très bien. Super. Un doux rêveur, Thomas. Merci. Laura Sanchez, en Suisse. Quel est votre avis ?
Oui, moi j'ai absolument adoré ce livre. On s'attache immédiatement à vos personnages, aussi improbables soient-ils. J'ai aimé cette folie douce que vous distillez à travers leurs yeux et leurs actions. Et il y a aussi votre écriture vivante, riche, qui se met très très bien au service de votre projet. Et puis moi je vais vous dire, depuis que j'ai refermé le livre, Lula me manque.
Elle me manque aussi, j'ai presque envie d'écrire la suite déjà.
Déborah Damblon pour la Belgique.
Moi c'est le contraire, en lisant la quatrième de couverture, je me suis dit, oh là là, je vais aimer. Et puis effectivement, j'ai beaucoup, beaucoup eu de plaisir à me promener dans votre monde onirique. J'ai trouvé des émotions que j'avais ressenties jeune, ado, quand je lisais L'écume des jours par exemple.
Oula.
Et puis
merci.
C'est très très bon.
C'est pas un compliment ça.
Ah oui.
Non. Si, c'est un compliment pour vous.
C'est un énorme compliment, bien sûr.
On n'est pas d'accord. Allez-y.
Voilà. Essayez de m'interrompre.
Non, on n'est pas
d'accord. Quand j'ai lu L'écume des jours, ce qui est un très grand compliment, monsieur Malzieu.
Écoutez, ça vous regarde. Moi, je préfère Mathias à L'écume des jours. Mais bon, allons-y.
Moi, j'aime les deux. Voilà. Mais surtout, ce que j'ai trouvé, c'est que c'était quand même très, très bon de se rendre compte que comme adulte, on peut encore ressentir des sentiments pareils. Alors, j'ai peut-être un tout petit regret, mais c'est tellement secondaire, pour avoir de temps en temps perdu l'intrigue dans cet univers tellement échevelé, tellement imaginé.
Ah, c'est vrai que ça foisonne. Ça foisonne pas mal. Et il y a des inventions, un peu comme chez Boris Vian, avec les surprisiers, par exemple. Il y a la grand-mère de Gaspard qui a créé un cabaret sur une péniche. Elle a inventé l'art des surprisiers. Qu'est-ce que c'est un surprisier ?
Les surprisiers, ça a commencé pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans l'histoire, c'est un truc inventé. Elle cachait des résistants. Et en fait, pour leur remonter le moral, elle les incitait à être créatifs. Et l'idée, en fait, c'était de continuer d'émerveiller. C'est la résilience poétique au moment où les rêves s'éloignent toujours de manière assez dangereuse. Et c'est ce qu'elle leur proposait. Du coup, c'est des gens qui, malgré le danger, essayer d'aller cacher des livres chez les gens et faire circuler encore la capacité d'émerveillement, même dans les moments difficiles.
Elle a fait de son petit-fils un rêveur de combat même, écrivez-vous Mathias. C'est dans notre imaginaire finalement qu'on arrive à survivre, qu'on arrive à vivre dans le monde dans lequel on est.
En fait, moi je le sépare un peu moins, c'est-à-dire que tous les gens adultes et normalement constitués rêvent. Le rêve fait partie de la réalité. Le fait d'imaginer permet d'avoir de l'empathie, ça permet de se mettre à la place des autres.
Mais on n'est pas tous des rêveurs.
Non, mais je pense qu'on a tous en nous ça et que ça a une importance. En tout cas pour moi celle-là et j'aime essayer de la partager.
Jean-Claude Grimbert, quand avez-vous commencé à être un rêveur vous ?
Je pense que tout le monde rêve, il y a ceux qui se souviennent des rêves. Moi je me suis souvenu de mes rêves plus quand le psy m'a dit « il faut me raconter des rêves ». Voilà. Mais j'avais fait quelques rêves très très violents avant d'aller en analyse, qui résumaient la situation que je vivais depuis mon enfance.
Oui, mais vous êtes un rêveur parce que vous créez des histoires, Jean-Claude. quoi qu'il arrive, vous nous plongez dans des histoires, dans un univers à chaque fois. C'est ça être un rêveur aussi, quand on est artiste
alors,
en tout cas.
Rêveur de papier alors.
Oui.
Je suis un rêveur sur
d'accord,
papier.
D'accord.
Oui, d'accord. Genre,
alors que Mathias, lui, est un rêveur tout court.
Oui, alors que moi, justement, sur le rêve, entre guillemets, de la nuit, le rêve non éveillé.
Ça, c'est autre chose.
C'est autre chose.
Ouais, ouais.
Je m'en souviens pas souvent. Alors peut-être parce que je les oublie, j'ai besoin de les recréer la journée et d'en faire d'autres.
Mais le problème quand on est un rêveur, c'est qu'on peut être incompris. On peut aussi croire qu'on est un idéaliste sans cesse en quête d'affection. Et ça peut être déstabilisant pour l'autre qui est en face de soi, qui est plus cartésien par exemple.
Oui, mais je crois que c'est toujours de l'huile dans les engrenages le rêve. Ça aide à communiquer. Je pense pas que ça soit un truc qui isole. Ou alors, après, tout se dose. Hein. C'est l'équilibre entre le rêve et la réalité qui me plaît. C'est la globalité, c'est pas que le rêve. Sinon, ce serait qu'une bulle de savon dans la création et même dans le rapport à la vie de tous les jours. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le yin et le yang du rêve et de la réalité. Quand il y a un peu de rêve dans la réalité, et quand il y a un peu de réalité dans le rêve.
Et Gaspard est un rêveur, donc, mais il ne croit plus en l'amour. Il s'est fait plaquer par sa compagne et il se protège comme ça de toute nouvelle relation. C'est d'ailleurs parce que son cœur s'est brisé qu'il n'est pas sensible au chant de la sirène et qu'il survit au chant de la sirène. Se protéger de l'amour, c'est se préserver, Mathias Maldieu ?
Oui, alors c'est une certaine façon de se protéger. Je pense que c'est quelque chose d'assez universel quand on a eu mal. Au-delà même de l'amour, hein. Quand on est petit, on met les mains dans le feu, on remet pas tout de suite la main dans le feu ensuite. Et quand on s'est fait un petit peu brûler sur les sentiments, on se protège en se disant qu'on n'en est plus capable. C'est même plus qu'on croit plus en l'amour, on croit plus en sa capacité de le ressentir sans avoir trop mal. Ouais. Et en fait, ce personnage, c'est ce qui m'intéressait, c'est qu'il soit comme ça au début de l'histoire.
Comme vous, quoi.
Exactement.
Non, mais c'est vrai, c'est vous. Moi, je vous ai vu tout au long du livre, parce qu'on se connaît un peu, mais.
Bien sûr.
Vraiment, hein, à chaque fois, vous écrivez votre histoire en l'imaginant avec le rêve.
On double son temps de vie en écrivant.
Oui, c'est ça.
En la revisitant un peu comme on veut. Tout à l'heure, Jean-Claude, vous parliez des souvenirs, que les rêves étaient liés aux souvenirs aussi. Les souvenirs, les fantômes, les rêves, tout ça, c'est quand même un petit peu le même cousinage. Et oui, moi, je pourrais pas écrire, justement, par rapport à votre question juste avant, je pourrais pas écrire juste un rêve ou quelque chose qui ne me concerne pas émotionnellement. C'est des autobiographies émotionnelles à chaque fois. Et j'aimais bien, que ce personnage se retrouve avec une sirène, c'est-à-dire ce qui peut lui arriver de pire et de mieux. C'est-à-dire que la femme la plus désirable et la plus dangereuse, alors que lui se croit immunisé face aux sentiments amoureux.
Et il faut sortir de sa zone de confort, ça aussi c'est un message du livre. Il faut arriver à se dépasser, à avoir le courage de se renouveler.
Oui, on aime bien ça, l'aventure. Ouais. On est là pour un petit moment, un tout petit moment extrêmement court. Donc si on peut en profiter un peu en surprenant, c'est pas mal.
Merci Mathias Malzieu.
Merci.
Vous allez rester avec nous,
avec
bien sûr.
Plaisir.
Une sirène à Paris est parue chez Albin Michel. Le film sortira donc quand ?
Si tout va bien, on commence à tourner le 22 février.
Ah, vous n'avez pas tourné ?
Le 22 février, n'importe quoi. Le 22, le 22 avril.
Ah oui.
Et on est en bout de financement.
Vous restez donc avec nous, on va faire une rencontre avec le rêveur qui n'est pas un rêveur, Jean-Claude Grimbert, qui est un peu tatillon aujourd'hui. On est un petit peu tatillon.
J'ai écrit une pièce qui s'appelait Rêver peut-être, que sur mes rêves.
Oui, c'est vrai.
Voilà.
Oui, mais vos rêves, vous parlez du rêve quand on dort.
Ah oui, mais...
Et nous, on parle d'autre chose, on est passé au-delà, Jean-Claude.
Ah oui, mais ça, c'est une qualité que je ne m'octroie pas d'emblée. Est-ce que je rêve quand j'écris ou...
Bon, on va en reparler ensemble.
Je rêve quand je dors.
En attendant, on va écouter un petit souvenir, sans doute émouvant pour vous, Mathias, et émouvant pour nous, car on adorait Jean Rochefort dans cette émission. En 2007, vous aviez enregistré une chanson avec lui qui deviendra un véritable tube. Voici L'homme sans trucage, interprété par Dionysos et...
Jean Rochefort.
Dans
Merci
la
beaucoup.
Librairie francophone.
Je ne suis qu'un trucage humain en voyage vers l'Andalousie, le pays où les paysages se dessinent comme des spaghettis western. On raconte qu'aux États-Unis, une vallée morte de jalousie de l'Andalousie et de ses spaghettis western. Oh, Andalousie, le pays où les femmes regardent droit dans les yeux, le soleil sans lunettes ni autre trucage, droit dans les yeux. Je ne suis qu'un trucage humain qui voudrait devenir un homme. Sans trucage à mon âge, le truc parfait serait d'être considéré comme un homme, un vrai, un grand, un être humain de mon âge.
Un homme sans trucage.
Je ne suis qu'un trucage humain, j'ai croisé sur mon chemin un humain sans trucage qui rêvait, cela dit, jour et nuit, d'en devenir un. Pourtant c'est lui qui me donne encore aujourd'hui la force et l'envie de rester parmi les humains aujourd'hui. Oh, encore et encore je dis merci à celui et ceux qui comme lui lacèrent les cieux de mille feux sans artifice, puisqu'il se glisse dans un livre, un regard vous tape sur l'épaule pour vous dire vas-y.
Andalusia, onda, onda, Andalusia, onda, onda, Andalusia, onda, onda, Andalusia, onda, onda.
Je ne suis qu'un trucage humain qui voudrait devenir un homme. Sans trucage à mon âge, le truc parfait serait d'être considéré comme un homme, un vrai, un grand, un être humain de mon âge, un humain sans trucage. À mon âge, le truc parfait serait d'être considéré comme un homme, un vrai, un grand, un être humain de mon âge.
Dionysos et Jean Rochefort avec l'homme sans trucage sur la RTS, la RTBF, ici Radio-Canada et sur France Inter.
Les médias francophones publics.
Radio France,
RTBF,
Radio-Canada,
Radio-Télévision Suisse.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Jean-Claude Grimbert est avec nous, un dramaturge qui est l'un des plus joués dans le monde. Votre œuvre, Jean-Claude, souvent drôle, toujours émouvante, est peuplée d'enfants privés de leurs parents. Et vous êtes orphelin vous-même, puisque votre père a été déporté en 1943. Vous le confiez à la fin de votre conte. Est-ce en rêvant des histoires d'enfants qui finissent bien que vous avez réussi à résister à la douleur?
C'est certainement un moyen de... Je voudrais dire quelque chose à propos de la douleur.
Allez-y.
C'est-à-dire que les enfants de déportés n'ont pas été déportés eux-mêmes. Voilà. Et c'est au long des années qu'on s'aperçoit qu'on aurait pu être déporté. On se sent comme en survie. Mmh. Ensuite, dans l'immédiate après-guerre, quand on commence à concevoir les choses, quand on a mon âge, je suis né en 39, on attend encore un père, mais c'est un père inconnu. Je n'ai aucun souvenir physique de mon père. Je ne sais pas s'il avait un accent ou s'il n'avait pas d'accent. Je ne sais pas s'il fumait ou s'il ne fumait pas, voilà. Donc, la douleur, elle se construit presque.
Voilà, elle s'est construite. On l'atténue comment, la douleur, Jean-Claude?
Je pense qu'elle grandit au fil des ans.
Et que elle plus, grandit.
Elle grandit. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus conscient de ce que ça a été. Tous les jours, j'apprends une nouvelle petite chose. Je lis des livres, je parle avec des gens. Voilà. Et puis.
Et vous en faites des histoires.
Oui, parce qu'aujourd'hui, les survivants vont disparaître. Les enfants comme moi de survivants sont déjà sur la bascule. Donc, bah, comme je peux écrire que là-dessus, j'écris là-dessus. Hein, on ne choisit pas ce qu'on va écrire. On subit. Voilà, j'ai écrit ça. Et en même temps, je me dis, il faut... Voilà, les gosses, on leur dit... je parle des gosses, c'est pas un livre pour les gosses. C'est un livre pour tout le monde. Mais ils ont qu'une vie. Hein. Mmh. On fait des enfants. Il faut leur, à la fois leur dire l'horreur et leur donner envie de vivre malgré tout.
D'accord.
Voilà. Après, on m'a dit, c'est pas pour les enfants. Donc ça a été dit.
Si, quand même, si.
Oui, c'est pour les enfants, mais pour il vaut mieux qu'ils soient accompagnés par leurs parents.
Alors parlons-en justement. La plus précieuse des marchandises est un conte éblouissant mais bouleversant. L'histoire d'un couple de bûcherons très pauvres, sans enfants, qui un jour reçoivent une petite fille jetée d'un train par un jeune papa qui est en chemin pour l'enfer. C'est la guerre et les juifs sont assassinés dans des camps par les barbares nazis. C'est une histoire très dure, mais vous arrivez à la rendre lumineuse, Jean-Claude Grimbert. Malgré la barbarie, le rejet de l'autre, dans votre rêve, dans cette histoire, il y a un espoir.
Oui, l'amour. Ouais. L'amour que cette bûcheronne va porter à cet enfant. L'amour du père de cet enfant. Il se trouve qu'il a deux jumeaux qui sont dans un... qui a plus de lait pour les deux jumeaux. Et il se dit, en en jetant un par la lucarne, peut-être celui-ci vivra, et peut-être que l'autre aura du lait. Parce qu'ils ne savent pas qu'ils vont vers la mort. Lui, sans doute.
Ouais, il imagine, ouais. Voilà. La force des rêves favorise la possibilité d'un espoir, comme
je
là.
Pense, ouais. Je pense, oui. Et puis en plus, il y a des rêves lumineux. Il y a des rêves... J'aurais pu rêver que mon père revienne. Voilà. Ça ne m'est pas arrivé, mais...
Ça vous est jamais arrivé, ce rêve-là? Jamais?
Non, non. Par contre, j'ai vu une image un jour, à la télé, dans une émission très médiocre. J'ai vu l'image d'un déporté soutenu par deux soldats. Et j'ai eu l'impression que c'était mon père. Mais c'est la seule fois.
Bon, je ne vais pas trop raconter cette histoire, car je souhaite, je veux même que les auditeurs la lisent, parce que c'est un modèle de tolérance, Jean-Claude Grimbert, votre histoire. Un modèle de résistance et de bienveillance. C'est aussi un témoignage qui résume tout, qui dit tout ce que l'on doit apprendre finalement à l'école. Il faut le lire à ses enfants pour se souvenir une bonne fois pour toutes. On va voir du côté de nos libraires s'ils sont d'accord avec moi. Les quatre l'ont lu, le Canada, la Belgique, la Suisse et la France. Et on commence avec la Suisse, Laura Sanchez.
Oui, eh bien, quel choc. J'ai été absolument bouleversée par cette histoire. Aussi parce que vous l'amenez par la voie du conte et on ne s'attend pas forcément à cette intensité, alors que c'est bien le rôle du conte. Le choix des mots est impeccable, vos personnages sont inoubliables. Je vous rejoins sur les jeunes. Ce livre pourrait très bien faire l'objet de lectures de classe avec des adolescents, oui. Un peu comme un futur classique.
Il faut absolument, on fait un appel aux enseignants d'ailleurs, hein, de s'intéresser à ce livre-là. Déborah Damblon pour la Belgique.
Ben moi je trouve que se renouveler avec un récit sur la déportation, ben, il fallait le faire. Et vraiment, vous l'avez fait. Et pourtant, je peux vous dire que j'en ai lu beaucoup, et je ne pensais pas avoir encore un jour cette impression de découvrir, mais vraiment découvrir quelque chose. Et cette idée du conte, c'est vraiment un défi, il fallait oser, vous avez osé, bravo.
Thomas Auxerre, en France, vous êtes conquis.
Ah oui, alors moi totalement, j'ai envie de dire déjà bravo à Jean-Claude, hein, parce que moi vous m'avez vraiment cueilli avec ce texte fort, alors qu'il a l'air frêle, hein, parce qu'il est tout mince, mais alors qu'il recèle vraiment d'une infinie humanité. On le lit d'un coup, on a envie de le relire tout de suite, on a envie de le donner à lire aux autres, de l'offrir, et puis aussi d'avoir leur retour de lecture. C'est vraiment un livre très beau, très fort, et puis bah, comme je disais, qui donne envie d'aller vers les autres, déjà ça c'est pas rien. Alors je dis vraiment merci à Jean-Claude, parce qu'en plus, une fois qu'on a refermé le livre, bah voilà, ça résonne encore. Donc ça, c'est vraiment super.
Bien. Jean-Claude, ça va?
Oui. J'ai bien fait de venir.
Enfin, Jérémy Lagniel, au Canada, pour une fois, vous êtes parfaitement d'accord avec vos collègues.
Absolument. Plus on avance dans ce conte, plus on laisse de côté nos questionnements sur le traitement, sur le ton, parce que l'histoire que l'auteur donne à lire en est une qui touche à l'universel. Hein. Ce sont des phrases au parfum de résilience qui se déplient devant le lecteur. Il grandit en nous comme quelque chose de magnifique, tout simplement.
Pas mal, la conclusion, magnifique. Jean-Claude est très ému, hein. Vous êtes ému, Jean-Claude?
Oui, oui. Non, oui. C'est vrai que je vais le relire avec attention. Non, non, merci, merci pour ces paroles.
Vous avez un sacré humour, hein, Jean-Claude Grimbert. Et avec votre humour, comme ça, vous interpellez le lecteur à la fin du livre. Vous lui dites, voilà, vous savez tout. Vous voulez savoir si c'est une histoire vraie? Bien sûr que non. Rien n'est vrai dans cette histoire.
Oui, on est dans un conte. Dans les contes, rien n'est vrai. Le petit pousset, les parents qui abandonnent leurs enfants pour ne pas les voir mourir de faim, ça n'est pas vrai. C'est dans un conte. Mais hélas, ce qui n'est pas vrai dans les contes est vrai dans la vie.
Eh oui. On va laisser Mathias Malzieu lire ce que vous avez écrit, Jean-Claude Grimbert, parce que c'est un sacré pied de nez, finalement, à toute l'histoire avec un grand H. Écoutez, Mathias Malzieu lit Jean-Claude Grimbert.
Vous voulez savoir si c'est une histoire vraie? Une histoire vraie? Bien sûr que non, pas du tout. Il n'y a pas eu de train de marchandises traversant les continents en guerre afin de livrer d'urgence leurs marchandises, ô combien périssables. Ni de camps de regroupement, d'internement, de concentration ou même d'extermination. Ni de familles dispersées en fumée au terme de leur dernier voyage. Ni de cheveux tondus récupérés, emballés puis expédiés. Ni le feu, ni la cendre, ni les flammes, rien. Rien de tout cela n'est arrivé. Rien de tout cela n'est vrai.
Jean-Claude Grimbert.
Mais quelqu'un m'a dit, mais pourquoi vous dites que c'est pas vrai? Voilà. J'ai écrit en toute inconscience ce conte, et puis après c'est à chacun de le déchiffrer et d'essayer de voir ce qu'il veut admettre de cette histoire. Voilà, puisque vous avez des gens qui viennent vous dire, et il paraît qu'il se multiplie en douce, que il n'y a pas eu les camps, qu'il n'y a pas eu d'extermination. Alors moi, je trouve que ce serait une bonne nouvelle si c'était vrai. Voilà. Si ça n'a pas eu lieu, il faudrait qu'on nous dise où est mon père, où est le père de tous mes copains, où sont les pères, les mères, les enfants. Voilà. Et puis, bon, il se trouve que tout à l'heure, on a dit, on a parlé du temps qui passe. Moi, j'ai passé beaucoup de temps. Et c'est peut-être le résultat de tout ce temps passé, de toutes ces lectures, de toutes ces rencontres qui ont fait que le texte s'est écrit tout seul.
Vous pointez plein de choses, Jean-Claude Grimbert, notamment la désinformation. On va pas rentrer dans les détails, mais il y a ces bûcherons qui traitent les juifs de sans-cœur, de race maudite, baladés, je cite, gratos en trains spéciaux. Et vous montrez ça, en fait. Vous montrez que l'humanité a la fâcheuse habitude de juger sans savoir, sans connaître la juste réalité. Tout le monde fait ça, partout. Tout le monde juge tout le monde sans tout savoir. C'est ça notre grand problème.
Oui, et surtout, je pense que là, dans le... puisque c'est des policiers français qui ont arrêté mon père et mon grand-père, il y avait une sorte de mauvaise conscience et en même temps, ce refuge de dire « il faut qu'on fasse notre devoir, même si on a un peu de dégoût pour ça ». Voilà. Et donc, on touche là à quelque chose qui ne s'est pas arrêté avec la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'on est partout victime ou du zèle, ou d'une sorte de yeux fermés.
Ouais. Voilà. Merci beaucoup Jean-Claude Grimbert. La plus précieuse des marchandises, un conte, est paru aux éditions du Seuil. Lisez ce conte, c'est un petit livre pas cher, accessible à tous. Lisez-le, transmettez-le et dites aux enfants, aux enseignants de le lire et de le faire lire. Ce livre vaut toutes les cérémonies du souvenir, tous les mémoriaux du monde. Merci beaucoup Jean-Claude.
C'est moi qui vous remercie.
Merci Mathias pour cette lecture.
Avec grand plaisir.
À suivre notre séquence livre de poche avec le français Philippe Delerme et la belge Odile Doutremont, mais aussi les coups de gueule et les coups de cœur de nos libraires. Avant cela, voici le chanteur québécois Hubert Lenoir avec son titre Recommencer. C'est la sensation musicale actuelle du Québec. Bonne journée ou bonne soirée à travers le monde avec la librairie francophone.
Se ressemblent, les vêtements sont innocents sur toi. T'as pas le droit de recommencer.
le chanteur québécois Hubert Lenoir avec Recommencer, c'est la sensation musicale du Québec actuel.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
Et on ouvre notre séquence livre de poche avec un bon roman belge intitulé Les Déraisons et signé Odile Doutremont. Un livre positif avec des personnages qui réenchantent la vie malgré les drames. Un livre qui vient de paraître chez 10-18. Et bonjour Odile Doutremont.
Bonjour Emmanuel.
C'est une histoire assez triste hein, quand même Odile, très dure mais pleine de fantaisie, pleine d'humour quand même. Pendant un an, Adrien va quitter son travail sans rien dire à personne. Pour s'occuper de sa femme qui tombe malade, il va quand même toucher son salaire. Et le pire, c'est que personne ne s'en aperçoit.
Oui, ça c'est une histoire que j'ai lue dans un journal. En fait, je suis partie de cette anecdote, entre guillemets-là, qui est assez terrifiante, je trouve. C'est qu'on peut arriver aujourd'hui, en 2017, dans des entreprises, à laisser des gens disparaître sans le réaliser. Des employés qui deviennent des employés fantômes, en fait. L'article que j'avais lu mentionnait un homme qui avait disparu de son entreprise pendant 5 ans, sans qu'elle le réalise. Et puis moi, je l'ai réduit à 1 an, parce que je me suis dit que la réalité dépasse, enfin, je voulais pas que la réalité
dépasse parfois la fiction, ouais. On ne nous aurait pas cru, ouais, sûr. 5 ans, ça aurait été moins crédible.
Ouais, absolument. Et en fait, je me suis rendu compte après coup, parce qu'on m'a rapporté des histoires de cas qui sont bien pires que ça. Ouais. À Quimperlé, par exemple, dans un hôpital, récemment, ils ont réalisé qu'ils avaient payé un médecin pendant 20 ans pour n'avoir jamais été là et pour n'avoir
pratiqué tout rien. Mais c'est ce que vous appelez les oubliés, ces invisibles comme ça dans les grandes entreprises. Et il y a plein de thèmes hein, dans votre livre, mais vous montrez aussi que dans ces grandes entreprises, tout le monde se fiche de vos problèmes et à la moindre faiblesse, on vous achève.
En tout
à condition qu'on vous retrouve.
Oui, c'est ça. Mais le personnage d'Adrien est un type qui travaille bien, mais il n'a pas beaucoup d'ambition. Comme beaucoup de monde dans les grosses entreprises, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sans grande conviction, qui travaillent par nécessité. À partir de là, quand il y a mieux à faire à côté, en l'occurrence c'est le cas chez Adrien puisque sa femme découvre qu'elle est malade d'un cancer des poumons et il se dit qu'il est inutile dans son entreprise et se dit au fond à quoi bon être inutile dans un endroit si je peux être utile ailleurs.
Ouais, c'est ça. Mais la fantaisie, Odile Doutremont, ça marginalise ?
Oui, et alors ? Enfin, moi je considère ça comme une force.
Vous qui venez d'une famille très célèbre, noble, belge.
Célèbre, non.
Enfin, noble.
C'est pas la même chose.
Certes. Est-ce que cette fantaisie, elle passe ? Ou elle passerait ?
Alors, moi, j'ai pas du tout été éduquée dans cet esprit-là. Donc, moi, j'ai des parents qui sont... Enfin, voilà, j'ai pas été éduquée là-dedans du tout. Et mes parents, oui, sont et étaient, quand ils ont eu la lourde charge de m'éduquer, très ouverts, très légers, incroyablement tolérants. Il y a une vraie légèreté. Il y a une vraie légèreté chez Noé. Mais qu'il n'y a pas forcément toujours dans... Voilà, chez nous, il y en avait une.
Dans les familles nobles, c'est ça que vous voulez dire. Chez vous, oui. Ah oui, donc c'est, voilà, c'est, oui, c'est oui, ça, oui, oui, ça vient de là aussi.
Oui, oui. Bon. Non, j'ai grandi dans la joie.
Adrien vit son procès, parce qu'il y a un procès, parce qu'on lui reproche comme ça d'avoir encaissé les salaires. Oui. Et il reconnaît tout, il agit bizarrement face à la cour. Et quand le juge lui demande ce qu'il faisait de ses journées, il dit « on dansait ». Alors son avocat est complètement atterré, il lui dit « pour les audiences à venir, il va falloir être plus pragmatique, on s'en fout que vous dansiez avec votre femme ». Et c'est le seul qui n'a rien compris, c'est l'avocat, parce que le juge, lui aussi, est plein de fantaisie.
Oui, le juge est un des personnages, personnellement, que je préfère. Ouais. J'ai adoré l'écrire. Soudain, il peut se permettre d'entendre la possibilité de voir et de juger autrement.
Le 22 mars 2016, tout s'arrêtera dans votre livre. La date n'est pas un hasard, Odile.
La date est... c'est marrant, maintenant que vous... Oui, si, c'était tout à fait un hasard. Bon, et maintenant que vous me le dites, je me dis...
Mais c'est le jour, c'est le jour des attentats de Bruxelles, à Bruxelles.
Ah oui, c'est juste. Bah écoutez, c'était un hasard.
Vous n'avez pas réalisé ?
Non, pas du
c'est
coup.
Vrai ?
Oui, je vous promets.
Incroyable. Bon. Ouais. Vous m'avez scotché. Merci Odile Doutremont.
Merci, vous m'avez scotché.
Mais c'est pas drôle, en plus, j'ai trouvé ça très dramatique, moi.
Oui,
enfin, absolument terrible. Et j'ai dit, voilà, elle a le symbole comme ça, elle renvoie aux attentats, et finalement, c'est assez malin. Et...
Non, comme quoi l'inconscient, de temps en temps.
Quelque part, oui. Bon. Les Déraisons d'Odile Doutremont, c'est chez 10-18. Les coups de gueule et les coups de cœur de nos libraires que vous attendez tous. On commence avec un coup de gueule. Ça va saigner aujourd'hui. Déborah Damblon en Belgique.
Eh ben voilà.
L'autre soir, Emmanuel, au détour de l'Internet, bon d'accord, j'aurais mieux fait de lire au lieu d'être sur l'Internet, mais bon, voilà. J'ai vu une photo d'une librairie dont la vitrine, une grande vitrine, était entièrement cachée par un immense mur de carton. Et alors je me suis dit, ben, c'est la rentrée littéraire du mois de janvier ? Ben non, que nenni, hein. C'était les retours de l'énorme surplus de la fin de l'année. Mmh. Alors, des retours, bien sûr, on en fait tous, c'est le jeu de la librairie. Mais les voir comme ça, hein, tellement gigantesques, tellement absurdes et inutiles, ben, ça a fait mes terriblement mal. Et je me suis demandé, mais dans quelle pièce joue-t-on ? Peut-être que le monde du livre devrait peut-être aussi réfléchir à un peu de décroissance.
Être un peu économe, c'est ça ? Oui. Mais c'est la liberté, si c'est un vaste débat, ça, hein, qui existe depuis toujours. À chaque rentrée littéraire, on dit il y a trop de livres. Oui, mais sauf que plus il y a de livres, et mieux c'est pour la liberté, pour l'expression.
Je suis pas sûre.
Ah, d'accord.
Parce que quand il y en a trop, on les voit plus.
Bon. Ils font tous une tête en plateau, je vous dis. Personne n'a d'avis là-dessus. Bon, Mathias Mazieu, un avis, non ?
C'est sûr que c'est l'image, elle est forte et elle est déprimante. Après, sur la question du trop de livres qu'on voit plus, je comprends aussi cette position.
Bon, au Canada, Jean-Claude
Grimbert. Multiplier les lecteurs.
Il faudrait multiplier les lecteurs.
Et pas diviser les livres.
C'est vrai. Vaste utopie. Au Canada, un coup de cœur dans le rayon des bandes dessinées où il y a plein de bandes dessinées. Jérémy Lagniel.
Absolument. La splendide bande dessinée Petite Russie de Francis Desharnais, c'est publié chez Papar. On suit l'histoire de son grand-père qui fait partie d'une petite commune, un petit village coopératif dans le nord d'Abitibi à Guyenne. Un village qui était proche du communiste où on construisait les maisons, on abattait les arbres pour coloniser le territoire. C'est splendide, c'est intime, c'est fait avec intelligence et ça nous raconte une part de notre histoire, vraiment un incontournable.
Bon éditeur de BD, les éditions Pao Pao, La Petite Russie. Merci beaucoup Jérémy. Thomas Auxerre, vous prenez la place de Jérémy dans le rôle du libraire acide. Un coup de gueule en France.
Bah oui, un coup de gueule. Alors un petit peu comme Déborah, c'est une question de carton. Alors moi, c'est plutôt parce qu'ils arrivent parfois vraiment relativement abîmés à la librairie. Il n'y a pas longtemps, j'en ai reçu un avec une trace de pas dessus. Alors comme ça, ça a l'air de rien, mais en fait, à l'intérieur, les livres sont déjà abîmés.
Ah ouais.
Eh oui, et du coup, bah, c'est du gâchis. On perd de l'argent, les clients en veulent pas. Quand c'est des commandes, je vous en parle même pas. Et du coup, bah, voilà, on les recommande. Et c'est un cycle sans fin.
Mais vous les renvoyez quand même, non?
Bah, on les renvoie, mais du coup, quand vous en avez besoin pour le samedi et qu'il arrive à vie abîmée, bah, c'est raté. Donc voilà, un coup de gueule, notamment pour Hachette et Calberson, sa filiale de distribution. Donc, faites attention au bouquin.
On va avoir des problèmes. On vous enverra les lettres. Merci, Thomas. Merci. On termine avec un autre coup de gueule, décidément, suisse, celui-ci, Laura Sanchez.
Oui, moi j'aimerais vous parler d'Antonia, le premier roman de Gabriela Zalapi qui vient de paraître chez Zoé. C'est une déception, plus qu'un coup de gueule à vrai dire. On parle beaucoup de ce roman dans les médias francophones, comme d'une révélation. Mais moi ce qui me frappe, c'est que j'y vois plutôt un texte évanescent, une graine de bons projets, mais à développer et travailler encore. Alors lisez-le et parlons-en si vous voulez bien.
Bon, nous on n'en parle pas en tout cas, hein, c'est réglé. Gabriela Zalapi aux éditions Zoé, bonne maison d'édition, hein, c'est-à-dire en passant, mais oui. Bon, là, apparemment, c'est raté. On dit les choses ici. Merci beaucoup, Laura. Philippe Delerme, lui aussi, a poussé des coups de gueule avec son livre sur les petites phrases qui agacent. Il vient tout juste de sortir en poche aux éditions Point. Et vous avez eu beau temps, la perfidie ordinaire des petites phrases. C'est un peu l'inverse de la première gorgée de bière. Là, vous évoquez les moments de la vie qui vous agacent. Et c'est la mauvaise foi, les donneurs de leçons qui semblent vous énerver le plus.
Oui, c'est vrai, il y a pas mal de choses. Enfin bon, il faut dire aussi que c'est un recueil de textes qui comporte pour moitié des textes plutôt tendres, on ne se refait pas, mais aussi quand même pour plus de la moitié des textes plutôt consacrés à l'hypocrisie ou à la duplicité de l'éternel humain, donc à travers des petites phrases de la vie prononcées ça et là, des petits mensonges, des petites approximations.
Ouais. Ouais. Moi, je dis ça, je dis rien, par exemple.
Oui, alors là...
Ou je lis les journaux chez ma coiffeuse.
C'est vrai que ce sont souvent des femmes qui disent cela, mais la première partie du texte évoque aussi cette espèce d'attitude que je reproche aux hommes, qui est de déployer parfois le canard enchaîné de façon trop manifeste. Et ça, ça m'a toujours amusé. Pourquoi dans les métros, dans les bus, on voit toujours des hommes qui lisent le canard le mercredi pour montrer à quel point ils sont rebelles et de gauche, alors qu'on voit jamais une femme qui éprouve le besoin de réclamer comme ça, socialement, un brevet comme ça de rébellion. Et souvent, les gens qui lisent ça n'ont pas une tête forcément très rebelle.
Les sportifs aussi, vous vous égratignez les sportifs. Alors ça m'a beaucoup étonné, Philippe Delerme, parce que vous êtes un passionné de sport. Vous êtes déjà venu dans cette émission, d'ailleurs, pour parler sport. Mm-hmm. Et vous dites que les footballeurs, ils ont comme ça des phrases toutes faites en sortant des matchs. Et ouais. ça vous énerve à un point. En même temps, moi aussi, j'avoue que là, le côté, c'est grâce au collectif.
Insupportable. Quand on voit ces gens qui, il y a une personne sur un million qui arrive à assumer leur destin de devenir un footballeur vedette, gagner 800 000 euros par mois et de marquer des buts. On les interviewe parce qu'ils viennent de marquer des buts et ils vous disent sur un petit ton triste tourné, c'est grâce au collectif. Mmh. Et alors, c'est cette pudeur magnifique qui revendique à ce moment-là, elle n'est pas tellement suivie d'effet quand ils sont, quand à leur entraîneur les sort à la 50e minute d'un match. En général, ils donnent un grand coup de pied dans une bouteille d'eau minérale et puis ils rentrent dans les vestiaires sans regarder personne. Et dans ce cas-là, le recours au collectif semble beaucoup moins primordial. Ouais. Dans leur...
Moi, il y a une phrase qui m'a énervé dans votre livre, Philippe Delerme. En fait, c'est la formulation de la phrase qui vous énerve qui m'a énervé.
Ok.
Ça va, vous suivez ?
Oui.
Passer un texto en arrivant.
Oui.
Personne ne dit passer un texto.
Si, ouais. Que si. Les gens qui tiennent à être sûrs que les gens oui. qu'ils aiment sont
on dit oui en régie.
Arrivés.
Non, mais envoyez-moi un texto. Envoie-moi un texto quand tu arrives. Oh, passer un texto.
Oui, passer un texto. Ah, ouais. Mais je comprends qu'un littéraire comme vous soit choqué par le passé, mais là, les gens qui sont à côté de moi, souvent, ils disent passer un texto en arrivant. Ah, ce oui. qui veut dire je ne me contenterai pas d'un coup de téléphone demain matin. Je serai inquiet jusqu'au.
Oui,
moment
ça, oui, d'accord. Juste là, rentré. Ouais. Qu'est-ce qui vous énerve, vous, Philippe Delerme, dans la formule et en même temps, je peux comprendre.
Ah, c'est surtout que je peux comprendre, parce que la personne qui vous dit en même temps je peux comprendre, ça veut dire qu'elle s'adresse à vous avec en affirmant qu'elle comprend davantage. Mais surtout, c'est vrai que c'est une situation qu'on a souvent quand on est un peu pétardier, comme c'est mon cas, et que voilà, quand je descends d'une rame de métro et que les gens se précipitent sans attendre que les gens descendent, et vous dites que c'est insupportable, ces gens qui n'attendent pas que les autres soient descendus pour monter. Et la personne qui est avec vous, elle dit mais en même temps je peux comprendre, parce que c'est vrai qu'il y a toujours des gens qui traînent, que maintenant ça va très vite. Et alors, mais surtout en même temps, je peux comprendre, ce qui sous-entend quand même clairement vous ne comprenez pas.
Je reviens vers vous aussi. Alors quand vous avez un rendez-vous, par exemple, vous allez voir quelqu'un d'important, et puis la personne à la fin de l'entretien vous dit je reviens vers vous. Ça c'est l'assurance d'une mauvaise nouvelle mais différée. C'est-à-dire qu'on vous recontactera et puis on vous dira à ce moment-là ce qu'on en pense.
Ah, c'est une phrase qui établit un rapport de force en fait. Ça veut dire je suis plus important que vous. Quand on dit je reviens
oui,
vers
c'est
vous,
ça.
C'est
ouais.
Enfin, je condescends à revenir vers vous. Ouais. Bon, ne supposez pas forcément que ce soit pour une bonne nouvelle. C'est déjà pas mal que je revienne
ça,
vers
exactement.
Vous.
Exactement. Et vous avez eu beau temps, la perfidie ordinaire des petites phrases est parue aux éditions Point en collection poche.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Avant de conclure, coup de pouce à une découverte musicale francophone. Voici le groupe réunionnais Transcabar, composé notamment du neveu de Daniel Waro. C'est tout nouveau et on vous offre un extrait de Olinde.
Olinde, 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 Olin
Transcabar avec All In Day, titre que vous pouvez retrouver en intégralité sur Internet. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. Instagram, où vous trouverez les photographies donc d'Anaïs Barbeau-Lavalette à Montréal. À la réalisation, Marie-Hélène Fauquet avec Alexandre Chénet à la technique, Thierry Dupin à la prog musicale. Merci beaucoup Mathias Malzieu, à très bientôt.
Merci beaucoup.
Merci Jean-Claude Grimbert. À la rédaction, Jean-Philippe Véret avec Christophe Magère en France, Annick Chouin et Madeleine Techer en Suisse, René Mikils avec Valérie Lepute en Belgique, Jacqueline Castonguet et Sylvie Julien au Canada. La semaine prochaine, je vous annoncerai une grande nouveauté concernant la librairie francophone, un événement dans le paysage audiovisuel dont nous parlerons avec un invité de choix. Nous serons aussi en plateau avec Véronique Ovaldé, l'artiste Blic Bassi pour un titre dans notre studio, et donc des grosses surprises. Bonne semaine, bon week-end.